RCF.
Frère Xavier Lopinet, vous qui côtoyez les personnes sourdes, vous en êtes l'aumônier d'ailleurs actuellement à Nancy. Est-ce que vous êtes gêné quand on dit que finalement on est tous un peu sourds, de la même manière que on dit on est tous un peu aveugles? C'est des formes de métaphores, mais est-ce que c'est pas un peu risqué quand on n'est pas vraiment touché par ces formes de handicap?
Moi, je vous dirais que mon contact avec le monde des sourds m'a rendu conscient à quel point nous nous écoutons peu les uns les autres. Ah, c'est très impressionnant.
Donc c'est maintenant un peu vrai tout ça.
Oh là, mon Dieu. On ne s'écoute pas, on se malentend, on continue. C'est très impressionnant. Et moi, ce monde des sourds, hein, je le redis, ma ligne pastorale, c'est pas de me faire entendre d'eux, c'est de les écouter. Et oui, nous sommes tous des sourds absolument en puissance. Hein, on fait semblant d'entendre, on n'écoute pas vraiment. Hein. On est peu présents les uns aux autres. Et moi, ce que le monde des sourds m'a appris, c'est que la présence en soi est la base de toute relation. Nous communiquons beaucoup entre nous, mais est-ce que nous sommes présents à l'autre? Est-ce que l'autre est présent à nous? Ça, c'est vraiment très difficile. Or, pour un sourd, la base, c'est est-ce que tu es là devant moi ou pas? Et si on n'est pas là, ah ben, vous le faites sentir. Et il le voit tout de suite.
Pas là, c'est-à-dire pas vraiment attentif, quoi.
Pas vraiment attentif, pas vraiment dans la relation. Et il y a une manière très brutale pour un sourd de couper court à une conversation entre eux, c'est de détourner le regard, de tourner la tête, et là c'est de dire « je ne t'écoute plus ». Parce qu'on coupe le fil de la relation qui est le regard.
Dans les Écritures, il est dit qu'il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre.
Oui, et puis tout ça commence mal, hein, puisque la désobéissance d'Adam part sur un malentendu suggéré de la part du serpent qui dit « mais pas du tout, vous avez mal compris, et vous pouvez devenir des dieux grâce à ça ». Donc la désobéissance d'Adam est un acte de refus d'entendre. Hein. Et puis au sens étymologique, hein, désobéir, c'est de refuser d'obéir, d'écouter, d'audirer. Hein, donc la désobéissance, c'est le refus d'écouter. Écoute-moi.
Jésus le dit beaucoup.
Oui. Oui, il est frappé par le fait que sa parole ne soit pas entendue. Et pour ça qu'il invente les paraboles, qui sont des petites histoires qu'on est forcé d'intégrer personnellement pour réagir. Donc oui, bien sûr, le verbe fait chair, la parole de Dieu, c'est pas une métaphore, hein, il est la parole de Dieu, a été extrêmement frappé par le refus qu'il a expérimenté dans le monde, en disant ben, « je viens vous annoncer une bonne nouvelle, vous l'entendez pas, qu'est-ce qui se passe quoi ?»
Alors qu'est-ce qui se passe, justement? Qu'est-ce qui fait qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas?
Qu'est-ce qui fait qu'on n'écoute pas? Je dirais la peur qu'une parole entendue nous bouleverse trop. Donc c'est pour ça que je pense qu'on s'écoute peu, c'est que dans toute parole il y a une puissance extraordinaire et il suffit d'être un tout petit peu ouvert à la parole de Dieu pour qu'elle commence à faire son chemin en nous. Hein. Donc ça c'est une expérience que tout chrétien peut faire, hein, qui est qu'un jour telle parole dans la liturgie, dans la lecture de la Bible m'a percuté et est vivante.
Vous parlez pourtant de peur, en disant qu'on a peur que ça nous bouleverse trop. Qu'est-ce qu'on risque finalement?
De se convertir.
Et qu'est-ce que ça veut dire, se convertir?
Eh bien, c'est extrêmement coûteux, c'est-à-dire que toute ma vie sera changée. Ou encore peur de la rencontre, parce que rencontrer quelqu'un, c'est toujours dangereux. On perd quelque chose d'une maîtrise sur qui il est, sur ce qu'on croit qu'il est, etc. Et rencontrer les personnes, vous qui êtes intervieweur professionnel, vous voyez, c'est un très très beau métier, mais c'est un métier très difficile qui est de laisser de la place à la parole de l'autre en disant « mais elle a de la valeur ». Mais vous voyez, je vais être positif, les Dominicains, on est positif, surtout comme prêcheur, hein, où on sent une parole, que la parole a du poids, qu'il n'y a aucune parole vaine. Je vais être positif en disant que la peur, c'est bon signe. C'est-à-dire, si on a peur de quelque chose, c'est qu'il peut se passer quelque chose enfin.
Et on le sait, on le sent. On sent qu'il peut se passer quelque chose.
On le sait, on le sent. Oui. Donc, la peur, en ce sens-là, est signe de... c'est presque une promesse. Vous voyez, dans toutes les apparitions, je vais dire mariales, mais ça commence jamais par « ah, c'est merveilleux !» Mais c'est « qu'est-ce qui se passe? Hein, il y a une forme de crainte, hein, de crainte de Dieu en disant, voilà, le surnaturel vient dans ma vie. Effectivement, on n'est plus le même avant ou après les apparitions de la Vierge Marie quand on s'appelle Bernadette ou Maximin ou Mélanie. Oui.
Mais vous, est-ce que vous rencontrez des sourds, alors pardonnez le d'insister lourdement, mais qui ne veulent pas entendre?
Alors, bon, oui, ils sont qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu
Oui,
ou le
ou qui ne peuvent pas l'entendre, comme nous qui avons des
oui,
oreilles qui fonctionnent bien. Est-ce
oui,
que
bien sûr,
finalement
hein,
c'est de
c'est
cet ordre-là, en fait? Est-ce que c'est une question d'oreille ou de cœur?
évidemment une question de cœur. Hein. Simplement, moi, ce que je constate, c'est que à peu de sourds, on a présenté la parole de Dieu. C'est-à-dire, on leur a donné finalement peu d'accès. Hein. Donc, il y a une forme de grande ignorance coupable de la part des prêcheurs, au sens large, hein, de l'Église. On leur a donné peu accès. Mais sinon, une fois annoncés, ils sont comme tout homme. Hein. Donc, là, il y a un partage d'humanité sur la rencontre de Dieu. Est-ce que je l'accepte ou non, bien sûr.
Il y a quelque chose
Mais
qui résiste en nous, tous.
en nous tous, bien sûr. À la fois une fascination, d'émerveillement, c'est-à-dire de rencontrer un sauveur qu'au moins potentiel en disant la bonne nouvelle existe. Après, il y a l'acceptation ou non, mais bien sûr, il y a à la fois une crainte et fascination. Il y a les deux.
Vous avez dit voir sa vie bouleversée, je reviens là-dessus. C'est quoi? C'est un sacrifice ou c'est pour du bon? Vous avez donné votre vie pour Dieu. Vous n'avez pas l'air malheureux.
Ben non. Ben je dirais que c'est une image, mais qui est classique, hein, qui est de dire Jésus est l'ami par excellence. Nous savons tous bien que notre vie ne serait pas la même si nous n'avions pas tel ou tel ami. Hein. C'est donc accueillir quelqu'un dans sa vie comme l'ami qui est en plus le sauveur et qui est le Fils de Dieu. Bien sûr, déjà, notre vie prend une ampleur à la fois géographique, c'est-à-dire on a le sauveur de tous les hommes et pas seulement de nous-mêmes, et puis une ampleur éternelle, c'est-à-dire Jésus est vivant. Donc là, notre vie dépasse les quelques années que nous avons à vivre sur Terre. Donc il y a une ampleur éternelle là.
Jésus annonce à plusieurs reprises ce qui va lui arriver. Il est même parfois assez clair. Et les disciples ne comprennent pas. Les disciples n'entendent pas. Parfois même ils se fâchent parce que vraiment ils sont durs d'oreille.
La croix est difficile à entendre. Quelque part, le refus d'entendre des disciples est programmatique de chaque chrétien. C'est-à-dire que l'annonce de la croix est toujours un choc en disant mais pourquoi? Et l'annonce de la croix du Christ, mais de nos propres croix. Hein. Oui, ça fait partie de la difficulté, ouais, humaine d'entendre que le serviteur est souffrant. Oui, le serviteur d'Isaïe, hein, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 42, il est dit ben, il sera sourd, il est muet, il ne parlera pas. Hein. Donc il y a quelque chose du mystère d'une parole qui se tait. Et qui, cette fois, laisse faire les actes, qui est la parole du Christ, c'est sur la croix. Hein. C'est là où il dit tout son amour, et pour les hommes, et pour Dieu.
Pour parler du mystère de la mort et de la résurrection avec des personnes sourdes, il y a encore là des signes, des gestes qui sont très signifiants pour le cas, pour le coup.
Là vous, avec cette question-là, ça évoque pour moi le très beau film que je conseille de voir de Marie Hortin. Hein, c'est une histoire vraie de Marie Hortin qui est sourde et aveugle du côté de Poitiers au XIXe siècle, et qui est éduquée par Sœur Marguerite. Hein, donc sourd et aveugle. Donc là, il y a un rapport à la communication extrêmement difficile. Et à un moment, on lui fait comprendre ce qu'est la mort, et on l'amène devant un mort pour qu'elle puisse toucher. Et qu'elle voit le corps froid, hein, elle qui n'a d'accès au monde que par le toucher. Et là, la religieuse lui explique, ben, elle n'est plus là maintenant, elle est au ciel. Hein. Et puis à la fin du film, la sœur Marguerite, son éducatrice, décède, et la fin du film montre une prière en langue des signes de Marie Hortin. C'est absolument bouleversant. Hein. Donc, vous voyez, dans la mort, on ne voit plus les personnes. Donc le rapport charnel est complètement coupé. Hein, donc c'est là où la foi. Donc il faut à la fois prendre conscience physiquement quelque part de la mort, donc de l'absence de communication tactile, sensorielle, visuelle, auditive pour les entendants. Donc on n'entend plus la voix, hein, d'une personne morte. Et donc c'est là où on bascule effectivement dans la foi et où nous espérons nous retrouver. En chair et en eau, je le rappelle, pas en pur
Esprit.
esprit, on pourra resserrer dans nos bras ceux que nous avons aimés. Mais...
À demain pour conclure. Merci beaucoup, Xavier
À demain.
Lopiné.